C'est pas allumé ? Ah oui, là, ben là je m'entends. Là. Donc, c'est... Si je m'entends, il y a un peu de chance que je sois enregistré. Si je m'entends pas, non, c'est enregistré dans ma boîte crânienne, mais c'est tout. Donc on démarre alors. Donc on démarre le cours survol de Nouveau Testament. On en est au 4, je crois. Hein, c'est ça, quatrième cours, il me semble. Donc on va, oui, on va attaquer les actes des apôtres, effectivement. On va dire qu'on on va estimer qu'on a terminé avec les évangiles dans la mesure où on peut estimer avoir terminé quelque chose. Et donc on va attaquer les actes. On va attaquer, bon, si on s'y prend bien, on va même finir, hein, mais on va en tout cas parler des actes aujourd'hui. On va s'arrêter sur certains passages. Je vais vous donner aussi quelques petites généralités que j'ai ici à droite à gauche. Et puis on va continuer un petit peu sur le même tempo que les deux dernières semaines, avec pas mal de textes à voir, à lire, à donner un peu de sens. Enfin, un peu ou beaucoup de sens, tant qu'à faire. Si on peut en mettre beaucoup, c'est mieux. Donc voilà. Donc le livre des Actes, c'est un livre un petit peu, enfin, original, je ne sais pas si on peut dire original, mais en tout cas qui est un peu différent des autres, dans le Nouveau Testament du moins. Pourquoi ? Ben, parce que c'est un livre qui est historique. Alors vous me direz, ben oui, les évangiles aussi, merci. C'est vrai, mais ce sont donc les seuls livres historiques, donc les quatre évangiles plus le livre des Actes. Le livre des Actes, pourquoi je dis qu'il est un petit peu particulier ? Parce que c'est le seul qui parle vraiment du début de l'Église chrétienne, comment les choses se passent. Et en fait, il est... alors, les évangiles, je vous l'ai déjà un peu massivement expliqué précédemment, aussi un peu beaucoup même. Ce sont des livres que j'appelle des livres qui sont un petit peu dans des phases de transition, ce qui n'enlève aucune valeur au livre, hein, ça, c'est pas du tout le problème. Et l'importance qu'il peut y avoir. Mais comme je vous avais expliqué, voilà, les évangiles, il faut prendre avec certaines précautions, parce que Jésus, il est sous la loi, et puis il enseigne, il annonce le royaume, et ensuite il annonce finalement ce qu'il va faire sur la croix, et il s'adresse donc aux futurs croyants. Et donc on est dans une phase transitoire, le livre des Actes d'autant plus. C'est pour ça que ce soir, à travers un certain nombre de passages, on va... Enfin, le sujet principal ne sera pas forcément le fait que c'est une transition, mais parce que c'est une transition, ça va nous donner du sens et des explications sur tout ce qu'on va voir ce soir. Donc on va voir justement ben les choses qui quelque part sont nouvelles, qui arrivent dans le livre des Actes, et qui doivent aussi être prises de manière un peu particulière, parce que comme je vous l'avais dit, si on veut savoir c'est quoi la vie chrétienne aujourd'hui, encore une fois, ben, le livre des Actes, tout comme les évangiles, ne va pas être le livre référence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à en tirer, loin de là. Il va y avoir beaucoup de choses à en tirer, ça va être très intéressant, mais ça ne va pas être le manuel de la vie chrétienne. Et après, ben, il se trouve qu'il y a des églises, des communautés, des chrétiens qui vont peut-être beaucoup se baser sur ce livre-là, pour dire ce que doit être la vie chrétienne et dire, ben oui, oui, ça doit être comme ça et pas comme ça, et pourtant vous faites ça et nous on fait ça. Oui, mais justement, c'est pas un raisonnement qui est cohérent, en tout cas de mon point de vue. Je vais tenter de vous le montrer. Voilà, donc on va revenir un peu là-dessus. Et du coup, le livre des Actes, c'est un peu un maillon entre les évangiles et la suite du Nouveau Testament, où il y a essentiellement des lettres à des églises et des fois à des personnes, des lettres qui ont une teneur doctrinale d'enseignement, donc ça, on verra ça plus tard. Et là, le livre des Actes, c'est différent, c'est de l'histoire, enfin c'est de l'histoire, ce sont beaucoup d'histoires en fait, beaucoup de faits, des fois quelques discours, effectivement, un certain nombre de miracles, et on va voir l'intérêt de ces miracles pour nous, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a non seulement un sens dans le miracle en lui-même, mais dans le qui l'est fait et quels sont les miracles qui sont produits, en fait. Donc, l'écrivain, on l'a dit, c'est Luc, le médecin, le compagnon de Paul. Donc, c'est la suite, c'est le tome 2, on va dire, de l'évangile de Luc, mais avec une variante assez différente. Donc, ça s'adresse toujours à Théophile. un personnage qui est influent, un gréco-romain, et une personne qui est cultivée. La datation, il n'y a pas trop de discussion, c'est dans les années 60, 62, 63. Après, les uns, les autres, ils mettent un peu plus, un peu avant, ils mettent... Ils font un peu comme ils veulent. Donc, pendant la captivité de Paul à Rome, apparemment. Le lieu de rédaction, on pense que c'est plutôt Rome. En tout cas, c'est pas en Israël, en Palestine. Une chose aussi qui est quand même assez intéressante, tout comme dans les évangiles d'ailleurs, mais les évangiles, vous me direz, il y a quatre livres, c'est déjà un peu différent, et ça relate essentiellement 3 ans et demi, puisque c'est le ministère de Jésus qui est essentiellement dans les évangiles et pas forcément plus de sa vie, alors que le livre des Actes relate une période plus longue quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que le livre des Actes, de toute façon, il n'est pas complet. Il n'est pas exhaustif. Je veux dire, il relate un certain nombre d'événements, il y en a forcément d'autres, il y en a certainement qui sont omis, et puis il y en a sur lesquels il y a beaucoup d'insistance qui est mise dessus. Par exemple, vous allez, alors tout à l'heure on le verra certainement, en acte 9, vous avez la conversion de l'apôtre Paul, donc de Saul de Tarse, sur la route de Damas. Pourquoi je dis il y a des événements qui sont omis, il y en a d'autres où il y a beaucoup plus d'importance, c'est que cet événement-là, il est répété 3 fois dans le livre des Actes. Donc, pas nécessairement 3 fois en termes de discours narratif, puisque la première fois, c'est, on va dire, un discours narratif de Luc, et ensuite, c'est plutôt... c'est expliqué à d'autres personnes, en fait. Mais peu importe, en tout cas, c'est quand même raconté 3 fois, avec des petites variantes, qui peuvent peut-être s'expliquer, on va dire, qui n'ont pas de grosses incidences, mais qui peuvent s'expliquer du fait de l'événement un petit peu formidable qui se passe. Donc, je veux dire, par exemple, la première fois, je vous le dis n'importe quoi, pas dans l'ordre, mais il va peut-être être dit qu'il entend une voix et ses compagnons ne l'entendent pas. Le coup d'après, ils voient rien, ils voient une lumière, ou voilà. Donc, ça fait des petites variantes. Vous voulez dire, ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, mais ce qu'on comprend surtout, c'est qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe. Et dans la description où le fait d'en s'est rapporté 3 fois, il y a des légères variantes qui montrent surtout le fait qu'il y a quelque chose de. Quand je dis exceptionnel, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est du coup peut-être difficile à définir ce qu'ils ont vraiment vu. C'est comme dans Acte 2, on va le voir, quand ils vont parler dans des langues inconnues, il est dit qu'il y a des langues de feu. Ben, ça décrit quoi? Moi, s'il y a une langue de feu qui me tombe sur la langue, c'est je vais me brûler, c'est tout. C'est pas ce qu'ils ont décrit. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des choses qui sont peut-être un peu compliquées à expliquer, et c'est expliqué avec des mots et des fois un peu d'un biais, un petit peu différemment. Mais l'essentiel n'est pas changé. L'essentiel, c'est que Saul de Tarse a été bouleversé, qu'il a rencontré Jésus, qu'il a une conversion et que sa vie elle a changé radicalement. Que les gens qui étaient autour de lui n'ont pas forcément bien compris, vu et discerné ce qui se passait, mais ils ont compris qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Et puis voilà, il s'est retrouvé aveugle, il a été amené jusqu'à, je crois que c'est à Césarée, chez Corneille. Et puis voilà, c'est ça qui est un peu la chose importante. Donc l'essentiel du livre des Actes, en fait, il est focalisé sur les apôtres, essentiellement sur 2 apôtres. Un qui est prévu et un qui n'est pas prévu. Un qui est prévu, c'est Pierre. Et du coup, les 12 premiers chapitres de Actes, on va dire le personnage enfin, principal, c'est même pas correct de dire le personnage principal, mais disons que peut-être celui qui revient le plus souvent et autour duquel les événements tournent un peu, c'est l'apôtre Pierre. Et ensuite, ça va être l'apôtre Paul, tout le reste. Et quand je dis un apôtre qui n'était pas prévu au rendez-vous, c'était l'apôtre Paul. Au point même que dans les premiers chapitres de Actes, vous avez Pierre, ça doit être 3 ou 4, peut-être 4, ouais, attendez. Est-ce que ça serait plus loin ? quand Pierre propose qu'il jette au sort pour nommer un autre apôtre. Peut-être. Peut-être même à la fin de 1, ça peut être très bien comme ça. Oui, c'est ça. La deuxième partie du premier chapitre, effectivement. Ouais, c'est ça. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, il dit « Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. » Donc ça me rappelle le genre de livre que je lis. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, au Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, comme dans l'Ancien Testament, et ça, c'est moi qui le rajoute, c'est pas écrit. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Et ce texte est quand même assez intéressant parce que Pierre, de suite, est revêtu d'une autorité, on va dire, parmi les autres. Il propose quelque chose fondé sur un passage des Écritures. Hein. Ils font comme ils connaissent, c'est-à-dire comme les pratiques de l'Ancien Testament, l'Urim et Thummim, on tire au sort. Donc là, ils le font. Et forcément, il y a quelque chose qui sort. Forcément, il y a quelque chose qui sort du dé. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que la personne qui est sortie ici, donc Matthias, donc ce qu'on sait, c'est que c'est une personne qui était là depuis le début du ministère de Jésus, qui n'a pas forcément abandonné les 12, qui est encore là après la résurrection, et qui est certainement quelqu'un de très bien, de rempli de l'esprit, etc. Mais en tout cas, on n'en parle plus dans la suite. Conclusion, en tout cas ma conclusion, c'est que, en gros, c'est quelque part, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et pourquoi c'est pas ce qu'il fallait faire ? C'est-à-dire que si simplement on n'en parlait plus, je pourrais dire non, si, peut-être c'est ce qu'il fallait faire, et simplement on n'en parle plus. On a décidé de ne pas en parler parce qu'il n'y avait peut-être pas quelque chose de spécifique à dire. Sauf que comme, manifestement, la suite du livre des Actes nous montre que Dieu lui-même fait un choix pour un 12e apôtre et qui s'appelle Paul, et qui était du coup qui rentre pas du tout dans les critères qui ont été choisis ici, je me dis quelque part voilà ce que Dieu a voulu faire, ben non, c'est pour remplacer Judas, il a mis Paul, mais plus que pour le remplacer numériquement parce qu'il y avait un projet particulier. Et Matthias, ben on va dire d'une certaine manière, je le mets entre guillemets, c'est une erreur de l'apôtre Pierre et des autres, mais c'est une erreur qui a aucune gravité et c'est pas grave, je veux dire c'est pas un problème, il y a aucune conséquence en fin de compte. Mais en même temps, ça nous montre bien qu'on est quand même dans un livre de transition en termes de dispensation et en termes de ce qui doit être compris. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont fait là, ben, il a fait quelque chose de simplement très cohérent avec son cerveau, Pierre. Je connais un peu les Écritures de l'Ancien Testament. Judas, ben, il s'est retrouvé sur la touche, enfin, même il est mort. Manifestement, il y a un passage qui me montre que quelqu'un doit prendre sa charge. Ben, on fait ce qu'on connaît. Des Écritures, pas ce qu'on connaît juste comme ça, là, on... Non, non, on fait ce qu'on connaît des Écritures. Et ce qu'on connaît des Écritures, ben c'est ça, on tire le sort, tout simplement. Mais ce qui est intéressant est le tirage au sort, entre guillemets, ici, qui correspond à l'Urim ou Thummim. Là, ils n'ont pas dû pratiquer les choses de la même manière, mais en tout cas, dans l'idée, c'est la même chose. Quand dans l'Ancien Testament, Dieu demandait, donc, qu'on demande par le sort, c'était l'Urim ou Thummim. En tout cas, peu importe, c'était un tirage au sort. Mais ce que je veux dire, c'est que là, par exemple... D'une part, c'est pas grave, comme je le dis, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui est sorti du sort. Et ce que je veux dire, c'est que quand les chrétiens ils vont chercher un signe, un machin, un truc, il y a quelque chose qui va sortir. Si demain, vous décidez que voilà, pour savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre dans tel domaine de ma vie, et que vous vous dites, dans l'Ancien Testament, il y avait l'Urim Toumim, moi, je prends 3D, le petit godet comme au 421, et puis je balance le truc, je mets un système en place qui fait que ça veut dire oui, ça veut dire non, ou je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui va sortir. Ça ne sera pas forcément la volonté de Dieu, mais il y a quelque chose qui va sortir. Donc voilà, c'est tout, on va arriver à quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ça va être la volonté de Dieu. Voilà, donc là, en l'occurrence, il n'y a aucune incidence, mais juste ça nous montre qu'on est dans une période transitoire, et en l'occurrence, ils utilisent, en tout cas, à défaut d'avoir une parole de Dieu qui leur dit de faire d'une manière particulière, ils utilisent ce qu'ils connaissent des Écritures, tout simplement. Et ce n'est pas un problème, Matthias, il n'y a pas de souci avec lui, sauf qu'on voit que la suite nous montre que Dieu avait un autre projet, il l'a fait, et il n'a pas fait de reproche à personne, d'ailleurs. Alors oui, autre chose, je reviens ici. Oui, quand je vous ai dit que le livre de Actes peut être partagé en deux, alors oui, juste je vous lis, ça c'est... ça peut avoir un intérêt. Communément, souvent on dit, le livre il s'appelle Actes des apôtres, et souvent on dit, quand on lit ce livre, on voit plutôt les actes du Saint-Esprit. Pourquoi pas, communément dans le milieu chrétien, on dit ça, c'est vrai, quand on lit, on peut dire, oui, effectivement, il y a beaucoup de manifestations de l'Esprit, on peut dire quelque part, finalement, le personnage central, c'est peut-être plus le Saint-Esprit. Et à la limite, l'intérêt qu'il peut y avoir à faire cette réflexion-là, c'est que du coup, c'est peut-être le seul livre où le Saint-Esprit est peut-être mis de manière particulière en avant par rapport même à tous les autres livres de la Bible, les suivants, les précédents, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit avant ou après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, oui, c'est vrai que là, on peut se dire, il est beaucoup parlé de l'Esprit, peut-être plus que dans les autres livres, et c'est peut être assez intéressant... à ce niveau-là. Donc je reviens à mon découpage en deux du livre, et dans mon découpage en deux du livre, l'intérêt, en fait, il est ici, il est que donc on voit deux personnages essentiels, Pierre et Paul, qui du coup partagent le livre, et ce qui va être très intéressant là-dedans, encore une fois en termes de transition, c'est que l'un et l'autre vont faire des miracles, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils vont faire les mêmes. Et il y a un défaut, c'est pas sa faute à lui, mais il y a, on va dire, un défaut, une carence pour l'apôtre Paul, une carence de crédibilité. C'est-à-dire que d'abord, c'est un persécuteur de l'Église, et en même temps, justement, pour le coup, lui, il n'est pas comme Matthias. Il n'était pas avec Jésus depuis le baptême de Jean. Il n'est pas témoin de la résurrection, de loin, s'il l'est. Il ne fait pas partie du sérail, il n'est pas comme l'apôtre Paul ou un autre, à la limite, s'il y a un autre apôtre, si ça avait été Jean, par exemple, ou n'importe qui avait pris un peu cette deuxième place d'apôtre principal, quand je dis principal, c'est en termes d'envergure dans le livre des Actes. Parce qu'on va voir aussi, dans Actes 15, que justement, on, dans le livre des Actes, et puis nous, dans notre manière de voir les choses, on a aussi un angle de vision qui est aussi particulier. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que... Alors d'abord, je finis avec la carence de Paul. Paul, en fait, du fait de sa conversion, de là où il vient, du fait que dans un premier temps, il est dans l'autre camp et qu'il ne fait pas partie des 12 du départ, donc en fait qu'il n'est pas choisi par Jésus du temps de sa vie charnelle, on va dire, il a un défaut de crédibilité, que l'on voit aussi, par exemple, dans les lettres qu'il va écrire aux Corinthiens. On verra ça plus tard. Il défend son apostolat. Donc son apostolat est critiqué. Et des fois, pour des raisons... Quand je dis objectif, c'est pas dans le sens qu'ils ont raison de le critiquer, c'est dans le sens qu'il y a des éléments. Il y a des éléments pour ça, tout simplement. Les éléments qui sont dans Corinthiens, de dire que il parle fort dans les lettres et pas quand il est présent, ça c'est pas des arguments. Mais dans Actes, les arguments qui est d'où il vient et qu'il n'a pas été choisi directement par Jésus-Christ dans le sens où on peut le comprendre. En fait, oui, il a été choisi directement par Jésus-Christ. Sa conversion, c'est exactement ça. Je veux dire, plus ou aussi, ou comme vous voulez, fulgurante que d'autres. Mais donc voilà, donc il y a besoin en fait d'attester que ce gars-là, il est envoyé par Dieu et il est crédible. Et c'est intéressant parce que finalement, d'une certaine manière, tout le livre des Actes, cette période de transition, elle est caractérisée par ça justement. Il faut prouver qu'il y a une nouvelle doctrine. Il faut prouver que on est bien issu de Jésus. Il faut prouver que Jésus il est bien ressuscité. Il faut prouver que effectivement maintenant c'est plus comme avant. Il faut faire autrement. Il faut prouver que. Et pourquoi il faut prouver que? Parce que les Écritures sont pas toutes écrites. Enfin, le Nouveau Testament n'est pas tout écrit. Parce qu'on n'est pas dans la situation d'aujourd'hui. On n'est pas avec 2000 ans d'Église. On est avec qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Le judaïsme, l'Ancien Testament. Et puis, il y a ce Jésus qui est venu, qui a fait du baroud et qui a fini sur une croix. Voilà ce qu'on connaît de Dieu, en fait. Et à partir de là, tu arrives et tu dis, il faut que ça soit comme ci, comme ça, alors maintenant, on peut manger de tout. Alors maintenant, bon, la synagogue, ça devient peut-être un petit peu obsolète. Enfin, en tout cas, voilà. Ceci, cela, ça change tout ça. Et les premiers chrétiens, ce sont quoi? Et on le voit dans le livre des Actes, essentiellement. Ce sont, dans un premier temps en tout cas, ce sont que des juifs. Ce sont que des juifs. Ce sont des juifs convertis qui s'adressent à des juifs dans un premier temps. Et bon, pas exactement que, mais quand même. Et ensuite, ça va aller effectivement vers des païens. Déjà à partir de Acte 10, avec Pierre qui va donc du coup évangéliser Corneille. Avec ensuite l'apôtre Paul qui va avoir justement son ministère spécifique. Ça va être d'évangéliser le monde païen. Et d'évangéliser les païens. Donc voilà, donc il va y avoir ça. Et donc, dans cette histoire de prouver, le fait qu'on voit les mêmes miracles, le même type de miracle, réalisé par l'apôtre Pierre et par l'apôtre Paul, fait que, puisque Pierre, on sait qui c'est, il a une forme de crédibilité parce qu'il était avec Jésus, parce qu'en acte 2, justement, c'est lui qui va être utilisé par Dieu pour un discours d'évangélisation où il y a, je crois, 3000 ou 5000 personnes qui vont se convertir, de toute nationalité, pas que des juifs en l'occurrence, ce qui va expliquer, oui, mais enfin en tout cas, qui ne sont pas forcément que de là, oui, ils sont juifs puisqu'ils viennent à Jérusalem pour adorer, justement, mais en tout cas, ils vont toucher le monde païen, du moins. Ce qui va d'ailleurs expliquer que l'Église à Rome, voire même les Églises à Rome par rapport à l'Épître aux Romains, on ne sait pas qui est-ce qui est allé pour démarrer l'Église, mais ça a démarré. Donc on pense que justement, des gens qui étaient venus de Rome à la Pentecôte sont repartis là-bas avec du coup le nouveau message. Et du coup, il y a des églises qui ont... Enfin, on pense plutôt des églises qu'une église qui ont démarré. Enfin bon, ça, on en reparlera plus tard. Toujours est-il, donc il y a besoin de cette crédibilité, et donc il y a ce parallèle qui est fait. Autre chose intéressante avec ces miracles, vous voulez, je vous donne les... Oui, je vais vous les donner, de toute façon. Les références parallèles. Alors, je vous l'ai dit vite, vous viendrez me voir après si on va trop vite. Tous les deux, ils guérissent un boiteux de naissance. Donc, pour Pierre, c'est un... je vais juste vous donner le chapitre comme ça, plutôt que d'aller avec les versets et tout, ça sera plus simple. Donc, Pierre, c'est un acte 3 et Paul, c'est un acte 14. Tous les deux, il y a l'ombre, leur ombre guérit les malades. En fait, pour Pierre, c'est son ombre qui guérit des malades, c'est un acte 5. Et pour Paul, ce sont des linges et des mouchoirs que lui a, qu'il a utilisé, je ne sais pas ce qu'il en faisait, qui guérit ses malades. Ça, c'est un acte 9. Tous les deux, il y a un petit parallèle, ça, c'est pas forcément un miracle. C'est que leur succès cause la jalousie des Juifs. Donc c'est un acte 5 pour Pierre et c'est un acte 13 pour Paul. Les deux, à un moment donné, vont, on va dire, malmener... dans les deux cas, ce sont des sorciers. Donc en acte 8, Pierre s'occupe de Simon, qui est un sorcier. Et dans acte 13... c'est Paul qui s'occupe d'un sorcier qui s'appelle Bar-Jésus. Donc après, vous lirez pour voir qu'est-ce qui se passe aux uns, aux autres, comment ça se passe. Mais voilà, voyez le parallèle. Et puis, Pierre ressuscite Dorcas, une femme, donc en acte 9. Et Paul ressuscite Eutychus qui tombe du haut de la fenêtre pendant qu'il prêche parce qu'il faisait son roupillon. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est décrit. En acte 20. Donc on a ce parallèle qui, du coup, donne une certaine crédibilité, en tout cas, qui, dans la logique du livre, est là pour donner une crédibilité à l'apôtre Paul et à son ministère, etc. Donc voilà, donc ça, c'est une chose. Autre chose qui est assez intéressante avec les miracles, je vais rajouter ça, c'est que... Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être un petit peu tenants de miracles, si tu as la foi, Dieu te guérit, machin, tout ça. Nous, aujourd'hui, on va pas dire, Bible en main, que Dieu ne guérit pas ou qu'il ne fait pas de miracles ou que ceci ou que cela. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'ici, il y en a beaucoup, tout comme dans les évangiles, d'ailleurs, avec Jésus. Alors, avec Jésus, il y a en plus le fait que c'est Jésus. Donc, Jésus, ce n'est pas, voilà, c'est pas le gars qui sort... du bout de la rue, quoi. Mais là, c'est pareil, il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est une période transitoire où, justement, il y a, comme je vous ai dit, il y a besoin de preuves, on va dire ça comme ça, et les preuves, elles vont venir comment ? Alors, elles vont venir, oui, par une élaboration intellectuelle, certes, et on va la voir avec, notamment avec Paul par la suite, mais elle vient aussi par des faits. Ce sont des faits qui vont parler et qui vont aller un peu au-delà de ce que Pierre, Paul et d'autres vont dire, en fait. Et donc, les faits, ici, en l'occurrence, ce sont des miracles qui vont attester les propos, les actes et la manière de faire de l'un et de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, ces miracles, l'apôtre Pierre, il va finir, apparemment, crucifié la tête en bas. Ça, c'est pas écrit dans les actes. C'est la tradition de l'Église, voilà, c'est écrit ailleurs, donc à la limite, on peut dire qu'on n'en sait rien. Mais enfin, en tout cas, on sait qu'il finit mal. À un moment donné, il meurt, et clairement, il ne meurt pas d'une grippe. Hein. Il meurt martyr, de toute façon. Donc là, apparemment, à un moment donné, il se retrouve dans une situation où il ne fait pas de miracle. Jésus, à la croix, il ne fait pas de miracle non plus. Enfin, le miracle qu'il fait, c'est qu'il ressuscite après. Mais je veux dire, il n'en fait pas pour se sauver de la situation. Pierre, qui à un moment donné fait des miracles, ben à un moment donné, il va plus en faire. Paul, c'est pareil. Paul, il fait des miracles, etc. Et même Paul, même plus fort que ça, je pense qu'à un moment donné, et même dans les lettres, dans les épîtres, à un moment donné, il prie pour d'autres qui sont malades. Ben écoute, si tu es un faiseur des miracles, écoute, pas de problème. Tu pries et puis l'autre, il est plus malade. À un moment donné, non pas il se plaint, mais en tout cas, il note le fait que lui, il est affecté. On va dire émotionnellement, par le fait que d'autres sont malades. Mais vas-y avec ton petit mouchoir et va le guérir. Il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que les miracles sont toujours soumis au plan de Dieu. Et ça, il y a des chrétiens qui l'oublient, parce qu'ils ont envie, eux, de définir le plan de Dieu. Et il faut que le plan de Dieu il soit rose. Sauf que, je suis désolé, sur cette terre, nous allons tous mourir un jour. Un jour, tout le monde, le cœur va s'arrêter. Et pour tout le monde, on dira, c'était trop tôt. Voilà, je veux dire, ça, c'est, après, c'est notre subjectivité à nous. Mais, donc voilà, à un moment donné, il va bien falloir qu'on soit malade ou qu'il y ait un accident et que l'on meure. Et voilà, et les témoins vont pouvoir dire, c'est trop tôt, c'est trop jeune, c'est trop machin, c'est tout ce que vous voulez. Toujours est-il, c'est le temps que Dieu aura fixé. Alors, en utilisant les circonstances, en utilisant des fois les erreurs des gens, peu importe. Mais en tout cas, ça va être ainsi. Donc le point qui est intéressant sur les miracles, c'est de savoir qu'à un moment donné, justement, les faiseurs de miracles, Pierre et Paul, ben, ils n'en font plus. Et plus on avance dans le livre des actes, moins il y a de miracles. Au début, là, les premiers chapitres, c'en est plein, il n'y a que ça. Hein. Voilà, Pierre et Jean, ils sortent du temple, il y a un boiteux, ben voilà, nous on n'a rien, on n'a pas de pièces, mais on te donne ce qu'on a. C'est Jésus, boum, le gars, il marche sur ses deux pieds, etc. Enfin, voilà. Et puis, ce que je vous ai dit, là, les linges, l'ombre de la personne qui carrément guérit les malades. Ben, ton ombre, elle guérit, mais va à l'hôpital. Mais va à l'hôpital, mais 24 heures sur 24. Ne quitte pas l'hôpital, guéris tout le monde. Voilà. Mais comme je le dis, Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort une seconde fois. Hein. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est ça. C'est qu'un jour, Jésus a ressuscité Lazare, n'empêche que Lazare est mort un jour. Un autre jour, je veux dire. Et personne ne l'a ressuscité. Donc, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est la réalité de la vie. Donc, c'est une chimère que de s'accrocher aux miracles, aux guérisons, machin, voilà. Donc, d'un côté, ayons l'intelligence de savoir que Dieu est capable, est toujours capable, et sera toujours capable de le faire. Mais ayons peut-être, d'une certaine manière, l'intelligence de rechercher qu'est-ce que Dieu veut. Et, ou alors, entre les deux, avoir l'humilité de dire ben, je ne sais pas. Je te prie pour une guérison, mais à la limite parce que j'ai envie qu'il soit guéri, et je sais même pas si c'est toi, et je te remets la situation. Voilà. Mais pas plus. J'avais un exemple, mais c'était mon chat, mais bon, on va passer à autre chose. Est-ce qu'on a du temps à perdre ? Non, on n'a pas vraiment du temps à perdre. Tu veux le chat ? Bon, je vais en deux minutes. Il y a un de deux chats qui est malade et c'est incurable. Et donc, de toute façon, voilà, à un moment donné, bon, de toute façon, lui, c'est pareil, c'est comme nous, il va mourir un jour. Mais du coup, voilà, au niveau de la maladie, il va y avoir forcément des problèmes, ça va être de plus en plus compliqué. Et cette nuit, il a vomi. Il a vomi et c'était des glaires avec du sang. Donc, ce matin, on ne l'a pas vu. On est partis tous les deux au boulot, on ne l'a pas vu. Donc, ce matin, je me dis, ben, en fait, qu'est-ce que je dois prier de ça ? D'un côté, tu peux dire, ben, d'accord, si ça vous fait plaisir, ce n'est qu'un chat, mais en tout cas, voilà, tu peux prier pour que ton chat, ce soir, tu le vois, il n'est pas mort, et voilà. Mais tant la volonté de Dieu, ça peut être aussi que, ben, il soit mort, et à la limite, ben, hier, il était bien, il y a eu un truc dans son corps cette nuit, ce matin, on ne le voit pas, il est mort, et puis c'est fini, et finalement, ce n'est pas si mal fini. Et moi, je priais juste, finalement, que, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux, mais à la limite, plutôt que. S'il est mort, ben, qu'il soit dans le jardin et juste qu'on l'enterre. Bon, ce soir, il était là, il était bien. Enfin, il était bien. Il était, en tout cas. Enfin, il est toujours, a priori. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là, je vous prends l'exemple de mon chat, parce que... Voilà, mais pour les humains, c'est pareil. Tu apprends que le frère, il a un cancer, il a un machin, il a un truc. Je ne vais pas prier pour qu'il meure de son cancer demain matin. Mais en même temps, je veux dire, des fois, on est... comment dire ? Je dirais quelque part, on est puéril des fois. Quand je dis puéril, c'est pas méchant, mais c'est parce que j'apprends que quelqu'un est malade, il faut prier pour qu'il soit guéri. Mais qu'est-ce que j'en sais si Dieu il veut qu'il soit guéri ? Peut-être que Dieu il veut que je prie autre chose. Ou peut-être, mais après il n'y a pas de mal. Je veux dire, on peut prier pour qu'il soit guéri. Mais ce que je veux dire, des fois, c'est quand je dis c'est puéril ou c'est ce que je veux dire par là, c'est quelque part, je trouve que ça, c'est comme si ça vide ma prière, ça vide ma prière de sens et de puissance en fait. Tiens, voilà, j'apprends que quelqu'un est malade, bon ben voilà, moi je prie pour qu'il, voilà, il faut qu'il soit pas malade. Sauf qu'un jour il va être malade, il va mourir de toute façon. Donc qu'est-ce que j'en sais de ce que Dieu veut maintenant ? Voilà, à la limite, je peux faire un truc. Ok, Seigneur, je te prie pour qu'il soit guéri parce que moi, a priori, émotionnellement, j'ai envie qu'il soit guéri. C'est tout, parce que je connais la personne et voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Et peut-être j'ai autre chose à prier à côté. Peut-être que j'ai à prier, Seigneur, bah, écoute, dans cette situation-là, qu'il apprenne, peut-être qu'il a quelque chose à apprendre. Peut-être. Et à la limite, je te prie aussi pour ça. Plutôt que juste, je prie pour qu'il soit guéri comme je prie à table, je prie pour mon repas, mais de toute façon. Je suis en France au XXe siècle et j'ai pas peur que mon repas il m'empoisonne quoi. Enfin, sur la durée, je suis sûr qu'il m'empoisonne, qu'il va me faire mourir. Hein. Mais je veux dire, j'ai pas peur que ça soit avarié, que ça soit mal lavé et que je vais mourir à cause de mon repas aujourd'hui. Je suis pas en Afrique ou en Asie ou je sais pas où. On est d'accord. Et je prie pour mon repas, mais je prie comme je mets mes chaussettes. Je veux dire en fait. Et des fois, c'est pareil. On prie pour une raison. En fait, il y a pas plus de poids dans ma prière. C'est pas méchant ce que je prie, il n'y a pas de problème, mais peut-être que Dieu, il veut autre chose, de plus profond. Mais pour que ce soit plus profond, il faut qu'il me le dise. Il faut que moi je l'écoute. Il faut que j'entende quelque chose de spécifique. Sinon, ben oui, je vais prier des généralités. Je prie pour le repas, amen. Allez, elle est assez salée la soupe. Voilà, et là c'est pareil. Et là, c'est pareil. Et en même temps, comme je vous dis, il n'y a pas de mal, je veux dire. Les gens sont malades, prions pour les gens, ce n'est pas un problème. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher plus loin, quoi. Donc voilà, je disais ça. Pourquoi ? Oui, par rapport aux guérisons. Et donc, à la fin, ben, à un moment donné, ben, ils ne guérissent plus personne. Et Paul, il est en prison. La prison, elle est froide. Et il a froid. Et il demande à Marc de lui envoyer les parchemins et un manteau parce qu'il se caille. Et pourquoi il ne fait pas le miracle que finalement, il y a 2000 ans, il y a la clim, quoi. Il y a une clim qui apparaît dans sa prison, quoi. À Rome, pourquoi pas ? Pourquoi pas, je veux dire. Hein. Non, mais j'exagère en disant ça, mais je veux dire, et pourquoi est-ce que simplement il prie « J'ai froid, Seigneur, je veux ne plus avoir froid. » Voilà, et puis il se passe je ne sais pas quoi dans sa geôle, je ne sais pas. Et parce que là, quand même, le truc, c'est que quand il écrit une lettre à une église et qu'il dit « Demande à Marc de m'amener les parchemins et mon manteau, en gros, parce que j'ai froid, c'est humide dans la piole », ça veut dire quand même que son manteau, il ne va pas l'avoir demain matin. Hein. C'est pas comme nous, on dit « T'envoies un coup de fil, un téléphone portable, l'autre, il a l'autre bout de Nîmes, il te l'amène. » Non, non. La lettre, le temps qu'elle arrive là où elle est envoyée, que le gars il fasse ce qu'il a à faire, qu'il vienne quand il peut à Rome trouver où est Paul et lui donner son manteau et les parchemins, il a le temps d'avoir froid, quoi. Donc quand je dis, alors qu'il a fait des miracles, il pourrait prier que Dieu fasse quelque chose pour qu'il n'ait pas froid, c'est vrai, en fait. Il ne le fait même pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'il demande à Marc d'amener le parchemin et le manteau parce qu'il a froid, parce qu'il est malade, parce qu'il vieillit, etc. Donc ensuite, on va faire simple. On va démarrer le début de Acte 1 parce qu'en fait, dans Acte 1, il se passe quelque chose qui est dans les évangiles, enfin, c'est ma manière de le dire, mais qui n'est pas écrit dans les évangiles. Les évangiles terminent avec... Jésus mort sur la croix, ressuscité, et qui vit, je crois, 40 jours avec les disciples, enfin, en tout cas, qui les voit un certain nombre de fois. Et il manque quelque chose. Parce que Jésus ressuscité, il n'est pas resté sur terre. Hein ? Il est monté au ciel. Mais ça, ce n'est pas écrit dans les évangiles, c'est écrit ici au début de Actes. Acte 1, donc Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Ça aussi, c'est intéressant comme formulation de Luc. C'est son deuxième tome, il a écrit l'Évangile, donc il a écrit donc la vie de Jésus, quoi. Donc dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Pourtant, Jésus, en gros, il n'y est pas dans les Actes des Apôtres. Dans le tome 2, il ne va pas y être. Donc, il a commencé de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Comment ça continue ? Ça va continuer avec le Saint-Esprit et avec les gens qui sont là, évidemment. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur parut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves. Vous voyez, quand je vous dis de preuves, on commence déjà le premier chapitre avec des preuves et le terme en lui-même, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il a passé 40 jours ? Pour donner des preuves. Jésus, il aurait très bien pu ressusciter. À un moment donné, ces réunions générales, ils sont tous là, il apparaît dans la chambre haute ou je ne sais pas tout. Voilà, c'est tout. Vous m'avez tous vu ? C'est bon ? Bien vu, attesté, ok, vous avez une mission, je repars. Hein. Et il repart de la même manière que c'est décrit ici, hein, pourquoi pas ? Non, 40 jours. Il s'est montré aux uns, aux autres, re-aux uns, re-aux autres, plusieurs fois. On insiste quand même. Hein. Et on insiste pourquoi ? Pour que, par exemple, un argument d'apologétique, il ne peut pas y avoir eu d'hallucination collective. 40 jours, différentes personnes... Plusieurs fois, différents endroits, différents contextes. Vous avez même Thomas, qui n'est pas là la première fois, qui est là la deuxième fois, qui va toucher les mains et le côté de Jésus, etc. Voilà. Donc on continue. Donc parlant des choses qui... Alors voilà, c'est ça qui devient très intéressant. Pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc là, je pense que quand il parle des choses qui concernent le royaume de Dieu, c'est, je dirais, des choses de Dieu pour la période de l'Église qui démarre là avec les croyants, enfin, eux à l'époque et nous aujourd'hui. Hein. Verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » D'attendre ce que le Père avait promis, donc le Saint-Esprit. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Ok. Verset 6. « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Pas parler du royaume de Dieu. Là, il est dit, « C'est quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Par rapport à ce qu'on a parlé les deux dernières fois. Le royaume des cieux, dans le sermon sur la montagne, qui parle de l'annonce du royaume qui est le millénium sur terre, donc finalement qui viendra à la fin, etc. Là, eux, ils ont Jésus ressuscité, ils sont juifs, ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Qu'est-ce qu'ils comprennent là? Ils sont encore sur quoi, eux? Ils sont encore sur... Il y a un royaume d'Israël terrestre qui doit avoir lieu à un moment donné. C'est ce qu'ils disent à Jésus. Et Jésus est ressuscité. Normalement, on a changé de dispensation. On parle du christianisme, normalement. OK ? Normalement, les Juifs, OK, l'Ancien Testament, c'est fini. Donc, si les promesses, elles passent de l'un à l'autre, là, Jésus, il doit les reprendre. Gentiment, mais il doit les reprendre, leur expliquer. Excusez-moi, on est passé à autre chose. D'accord ? Vous êtes gentil, mais là, on est passé à autre chose. Maintenant, c'est le Saint-Esprit, je suis crucifié, tout est accompli en moi. Les promesses qui étaient à Israël, globalement, ils ont rejeté. Tout se transpose spirituellement sur l'Église, qui le disent d'une manière ou d'une autre, mais c'est ce qu'il doit leur dire, si les amillénaristes ont raison. D'accord ? Qu'est-ce que dit Jésus ? Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » Sous-entendu, vous avez raison, ça va se passer. Mais ce n'est pas à vous de savoir quand. On est bien d'accord, je lis français, là. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, « Mais vous recevrez... » Donc là, effectivement, il parle de ce qui va se passer, de l'actualité, quoi. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ce verset, qu'on peut considérer d'une certaine manière comme le verset clé, si on peut dire... C'est difficile de trouver des versets clés, en fait, dans les livres de la Bible, dans la plupart, parce que ça répondrait pas à la définition d'un verset clé, en fait. Mais bon, celui-là, on va dire quand même que c'en est un, dans le sens que ça, ce verset-là, il découpe aussi le livre des Actes. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont recevoir le Saint-Esprit, on va le voir en acte 2, donc inauguration de l'Église, d'une certaine manière, à la Pentecôte, et ensuite, effectivement, ils vont aller à Jérusalem, à Samarie, à Judée et aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, effectivement, leur ministère... aux apôtres, en tout cas, dans ce qui va être décrit, ça va aller de cette manière-là, de plus en plus loin. Et ça découpe, on pourrait d'une certaine manière découper, en tout cas certains se sont amusés à le faire, mais je ne veux pas vous le donner, le livre des Actes de cette manière-là. Et ça nous amène de manière chronologique, d'une certaine manière aussi. Donc en tout cas, toujours est-il, le royaume d'Israël, moi de ce que je lis ici dans Acte 1, c'est toujours d'actualité, enfin d'actualité. Ça va arriver un jour plutôt, mais ce n'est pas l'actualité. Parce qu'effectivement, on passe à autre chose, pour l'instant. D'accord ? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel, vers le ciel, je pense qu'on finira pas du tout tout ce que j'avais prévu ce soir, mais c'est pas grave, on a encore quelques semaines. Vers le ciel, donc pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, leur apparurent, bon, manifestement, on peut penser que ce sont des anges, et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ben parce qu'il se passe quelque chose. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu... C'est moi qui l'ai rajouté, ça. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. D'accord. Il reviendra de la même manière. Donc ça, un autre élément, quand dans Thessaloniciens, par exemple, il nous est parlé de l'an, enfin, en tout cas, il y a des passages qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église, ça ne ressemble pas à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Jésus, il revient sur le mont des Oliviers, là où il part ici. Ça correspond à la prophétie qui est faite en Zacharie 14, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, je vais voir les petites annotations qu'ils ont mis, mais il faut me la trouver. Elle est où ? Pourquoi il ne le met pas, lui ? Attends, parce que je suis passé où, moi ? Il ne me la met pas, mais en tout cas, si, ça doit être dans Zacharie 14. Néanmoins, et je vais même vous le trouver, néanmoins, où là, c'est bien spécifié que c'est sur le mont des Oliviers.
C'est
14.3. 14.3, oui, on va y aller. Non, mais je cherchais une note sur ma page en acte, en fait, qui me donne la référence, oui. Alors, oui, donc, Zacharie 14, donc ça, c'est l'Ancien Testament, évidemment, 3-4, l'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Pardon, il se forma une très grande vallée, etc. Et donc ça va être Armageddon, la bagarre et tout. Très intéressant, pareil. Ici, acte 2, il dit il est monté au ciel, il va revenir de la même manière. Ça ne fait pas référence à l'enlèvement de l'Église qui ne va pas être vu par les gens, alors que là, il est dit que, justement, vous le verrez. C'est sur les monts des Oliviers, alors que la rencontre de l'Église sur les nuées, ça ne sera pas... Hein. Et quand on lit dans Zacharie ce que je viens de lire ici, il n'est pas parlé de Jésus, il est parlé de l'Éternel. Donc, pour les témoins de Jéhovah, par exemple, qui pensent que Jésus n'est pas l'Éternel, ça peut quand même prêter un petit peu à faire penser que l'Éternel et Jésus, ça se ressemble un petit peu, quand même. Donc, si ça ne leur va pas... La Trinité va quand même falloir qu'ils trouvent un petit peu à assembler les bidons, quand même, à mon goût. Et autre chose ici, donc, l'Éternel paraîtra, il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Quand l'Église sera enlevée, en tout cas dans les passages qui en parlent, il n'est pas question de combat contre les nations. Il n'est pas question d'arriver sur la montagne des Oliviers. D'accord ? Ça correspond à quoi ? Ça correspond à la fin de la tribulation, au début du millénium, où effectivement Jésus vient pour établir ce que je vous ai un peu décrit avec le sermon sur la montagne, un règne de fer, d'une certaine manière. Enfin, le terme, il est dans l'Apocalypse, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est cohérent, et c'est cohérent par rapport au fait que, donc, une, qu'effectivement, il y a le royaume d'Israël qui doit venir, c'est ce qu'on voit ici. Jésus ne contredit pas. Les anges disent il doit revenir comme il est parti ici, donc c'est au même endroit, montagne des Oliviers. Ça correspond à la prophétie dans Zacharie 14. Quand vous lisez Zacharie 14, il n'est pas parlé du Messie qui doit venir, il est parlé carrément de l'Éternel. Donc le Messie qui doit venir, qui est Jésus, puisqu'on en parle en acte 1, c'est le même, donc il est Dieu. Donc, tout ça, c'est cohérent, ça, dans la Bible. Donc, après, quand vous venez avec vos deux, trois versets où, ouais, mais tu comprends, Jésus, c'est pas machin, nana, et puis intellectuellement. D'accord, amusez-vous. Moi, je trouve que c'est juste carré. C'est juste carré. Et pour dire que c'est pas carré, il faut trouver des explications autres qui tiennent la route. Et trouver d'autres explications, pourquoi pas, mais qu'elles tiennent la route, ça va être beaucoup plus compliqué. Et pour les amillénaristes, c'est pareil. Gentil, mais lisez acte 1. Lisez Zacharie 14, lisez ce qu'on vient de lire là, et je vois assez difficilement comment est-ce qu'on peut aller prétendre d'autres choses. Après, vous verrez dans Romains, il y a des passages beaucoup plus probants qui peuvent soutenir cette vision amillénariste, mais je vous expliquerai pourquoi est-ce que pour moi, ce n'est pas probant. Et vous verrez que d'ailleurs, ça serait très probant, c'est très probant, effectivement, c'est même carrément irréfutable, à partir du moment où on fait fi du contexte de Romains, la partie où c'est écrit. Mais ça, on verra plus tard. Donc voilà, tout ça, c'est très bien. Donc on avance quand même, malgré tout. Alors maintenant, je voulais, et je suppose que les autres choses, on le verra la prochaine fois, ou est-ce que je fais l'inverse ? Peut-être qu'on va faire à l'inverse. Voilà. Je voulais vous parler du parler en langue, et en fait, on le verra peut-être la prochaine fois, ça sera mieux. Comme ça, je répète, moins fatigué, et on y rentrera mieux. Là, en fait, on va plutôt voir, et le temps qui nous reste, on va essayer de voir un certain nombre de passages clés, mais qui ont un intérêt, et je vais vous expliquer un peu l'intérêt. Donc, le parler en langue, juste, on verra la semaine prochaine. Je peux juste vous donner un petit bout de référence où on ira voir, justement, acte 2, acte 19 et acte 10. Donc, on ira voir ça, et puis on en reparlera certainement un tantinet dans Corinthiens, mais où on fera tout ensemble, on verra bien. Non, on fera pas tout ensemble, mais bon, voilà. En tout cas, là, on en parlera, vous verrez, c'est très bien, mais voilà, si là, je le fais maintenant, ça va être... je vais pas bien le faire, ou je vais prendre trop de temps, on finira pas ce soir, enfin, voilà. Alors, par contre, d'autres choses qui sont intéressantes. Alors, toujours ayez cette idée de transition. Ayez cette idée. Alors, quand je dis transition, attention. Transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais qui dit entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport au sort qui est jeté pour donc choisir Matthias, alors que finalement, le Saint-Esprit va choisir Paul. Il y a un événement qui est assez intéressant, qui est choquant pour les chrétiens, qui prête à discussion. Donc du coup, des fois, il y a des explications qui sont données qui ne sont pas correctes en termes d'herméneutique, enfin, qui ne sont pas correctes du tout, de toute façon, mais je vais vous l'expliquer d'un point de vue herméneutique. C'est un acte 5. Acte 5, ça ne nous plaît pas, parce que acte 5, c'est l'histoire brève de Ananias et Saphira, qui manifestement sont des disciples comme les autres. Donc, voilà, et donc, comme tous les deux... Alors, est-ce que tout le monde connaît l'histoire ? De toute façon, on va la lire. Hein. Oui, non, pas du tout ? Ananias, Saphira, ça te parle ? Ceux qui ont vendu le champ et qui se sont retrouvés enterrés dans la journée. Donc, c'est pas... Ça fait pas plaisir, hein ?
La doctrine, c'est qu'il faut pas vendre son champ.
Voilà, donc la doctrine... non, alors voilà, alors, on choisit, on a deux choix entre deux doctrines. Alors, Pasteur Jean dit qu'il ne faut pas vendre son champ. Ça, c'est la doctrine préservatrice qui veut éviter de s'arriver à s'attirer des problèmes. Ou alors, l'autre doctrine, tu évites aussi les problèmes, tu vends, tu donnes tout. Mais, justement, on va parler de ça. On va parler de ça, parce que c'est pareil. Ceux qui... Enfin, pas ceux... Après tout, je n'en sais rien. Mais, en tout cas, dans le christianisme, il y en a qui mettent beaucoup d'accent sur les miracles, sur les guérisons, sur les machins, ça devient une loi, si tu as la foi. Donc, on a expliqué ce qu'on a dit tout à l'heure. Et dans le même, un petit peu créneau en tout cas, après ça va se retrouver être un petit peu les mêmes classes de christianisme, mais bon, peu importe, c'est pas un problème. Ils vont, par exemple, il va y aussi avoir effectivement des chrétiens qui vont dire, ben, la vie chrétienne normale, c'est de tout vendre et de tout mettre en commun, et de vivre en communauté. Enfin, en tout cas, ça doit être la suite des choses. Ça, c'est pareil, je vais vous expliquer. Alors, ça va être... justement dans le contexte de Acte 5 et de Ananias et Saphira. Mais il n'y a pas que ça qui va nous expliquer Ananias et Saphira. Alors, je vais essayer de tout vous expliquer. Alors, on va lire, justement, du coup, on va commencer, pour être bien, un petit peu avant, dans Acte 4. Alors, déjà, une chose qu'on n'a pas vue, mais qu'on verra la prochaine fois, puisqu'on va parler du parler en langue, c'est Acte 2, la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend sur les croyants. Avec parler en langue, donc en l'occurrence, on le verra, mais bon, des langues communes, puisque les autres comprenaient. Pentecôte, ce qui veut dire fête juive, ce qui veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait des croyants juifs qui venaient de un peu partout le monde connu à la fête à Jérusalem. Et donc, parmi ces gens-là, ben, y en a qui, du coup, vont vivre la Pentecôte dans le sens descente du Saint-Esprit. Du coup, on va dire conversion. Naissance de l'Église chrétienne, et voilà. Et du coup, ce qui se passe, alors je vais déjà lire le texte, et ensuite je vais rebondir sur ce que je suis en train de dire. Voilà, à partir du verset 32 de Acte 4, la multitude de ceux qui avaient cru, donc ceux que je viens de décrire là maintenant, en donnant un contexte, de ceux qui avaient cru, donc n'étaient qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Bon, ben voilà, ok, la vie chrétienne, c'est ça. S'il vous plaît, vous vendez vos maisons, vous vendez tout, on va, même vos voitures, on va acheter un truc, on va tous vivre en commun, il y aura la voiture de fonction, machin, tatatata, et on va vivre comme ça, puisqu'on est un cœur, une âme, on est d'accord ? On fait ça, et pas de problème. Vous déshéritez vos enfants s'ils ne sont pas chrétiens, enfin, d'accord, on fait ça, hein ? Ok, donc la question, mais qui est quand même sérieuse, c'est est-ce que c'est ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ou en tout cas pour les siècles à suivre. Parce que là, c'est enfin, là, je veux dire, vous pouvez prendre, faire de l'exégèse, regarder dans le grec et tout, ça veut dire ce que ça dit. Ça ne veut pas dire autre chose, je veux dire. Hein. Ça veut dire, en gros, ils créent une communauté. En tout cas, ils vivent en communauté. Et rien ne leur appartient en propre. Donc, oui, en gros, ils vendent, ils donnent, ou en tout cas, ils font pas, d'une manière ou d'une autre, ils font partager tout le monde. Est-ce que ça, c'est la vie chrétienne ? Donc les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Super, ben voilà, c'est ça la société idéale. Société chrétienne, idéale, communauté, nickel, impeccable, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, une forme de communisme parfait. Vous voyez, on a perdu 19 siècles, et après en plus on l'a mal fait en voulant limiter. Bon, et ça nous a fait en plus une guerre mondiale. Bon, bref. Donc il y avait donc tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Donc il y avait les gestionnaires, en plus c'était les apôtres. Impeccable, super. Donc aujourd'hui on fait pareil, on va dire il y a quelques pasteurs et ils gèrent le truc, pas de problème. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Équité, super, c'est trop bon ça. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, donc c'était déjà un prêtre dans le judaïsme, originaire de Chypre, donc vous voyez, lui, il n'était pas de Jérusalem, déjà lui, il arrivait de Chypre. Et manifestement, et c'est là où je commence à expliquer, il est resté à Jérusalem. En tout cas, jusqu'à ce moment-là, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ok. Donc je vais déjà peut-être vous donner... Non, on va lire la suite, comme ça on va expliquer tout en même temps. On va expliquer l'histoire de la communauté, de distribuer ses siens, ses biens, qu'il n'y a rien qui est à nous et tout. Et on va expliquer Ananias et Saphira dans la foulée. Donc, chapitre 5. « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. » Super, il fait comme l'autre. « Et retint une partie du prix. » Il ne fait pas pareil. « Sa femme, le sachant... » donc et tout est précis dans ce texte. Hein, « Il vend un champ, il garde une partie de la propriété. » Donc, il ne fait pas comme l'autre. Il garde une partie du prix. « Sa femme le sait. » Ce qui va nous expliquer ce qui va se passer après. Le sachant, donc, puis il apporta le reste de l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc il fait comme l'autre, mais il ne fait pas comme l'autre. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Deux choses. Une, quand il est dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Moi, j'y vois pas là-dedans, dans cette expression-là, une possession démoniaque. J'y vois juste une expression pour expliquer que, on va dire, il se soumet finalement à ce que Satan induit dans sa vie, tout simplement. Par contre, la suite, au point que tu mentes au Saint-Esprit, ça, par contre, je vais interpréter autrement. Et je vais dire qu'au contraire, ça veut dire qu'il est chrétien. Pourquoi ? Parce que dans les lettres de Paul, qui sont des lettres doctrinales, il est parlé qu'on peut attrister le Saint-Esprit, on peut éteindre le Saint-Esprit. Il y a des verbes, je dirais, à connotation émotionnelle qui sont... Enfin, quand je dis émotionnel, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein, juste, il y a des émotions qui sont rendues entre le croyant et le Saint-Esprit dans des lettres doctrinales. Donc ici, je pense que je n'ai pas de problème de prendre la liberté de tirer la conclusion, en tout cas, et on verra la suite, que quand il est dit... au point que tu mentes au Saint-Esprit, je dirais que si tu mens au Saint-Esprit, d'une, déjà, ça montre que le Saint-Esprit est une personne et pas une force, comme certains le pensent, d'où la doctrine de la Trinité, encore une fois, et ça veut dire que donc tu es habité du Saint-Esprit, que tu es un chrétien, puisque tu lui mens. Si tu n'es pas chrétienne, tu ne mens pas au Saint-Esprit. Tu fais ta vie, qui n'est pas un agréable odeur au Saint-Esprit, parce que de toute façon, tu ne peux vivre que dans ta chair. Mais si tu mens au Saint-Esprit, ça veut dire que normalement, tu es censé vivre autre chose que mentir au Saint-Esprit, donc tu ne vis pas que dans ta chair, tu as reçu le Saint-Esprit, et tu peux être habité du Saint-Esprit et vivre quelque chose. La logique reste logique. Donc a priori, le Ananias Saphira, déjà pour ceux qui pensent et qui veulent éluder la question en disant « de toute façon, en fait, ce n'étaient pas des croyants, ils s'étaient approchés du christianisme, mais voilà, là, ça a été trop dur et ils n'ont pas fait comme il faut », je trouve que le texte ne va pas dans ce sens-là du tout. Ce qui nous met plus dans l'embarras. Parce que ça nous fait pas vraiment plaisir que si l'autre, il ment au Saint-Esprit, il mourrait de la journée. Attends, c'est un peu embêtant quand même. Par contre, on peut quand même se poser une question d'un point de vue purement intellectuel. Est-ce que vous ou moi, nous avons jamais menti au Saint-Esprit ? Une. Bon, votre réaction sous-entend que oui. Par contre, manifestement, vous êtes encore là. Donc ça devrait quand même tirer comme conclusion que le Saint-Esprit, pendant 2000 ans d'Église, n'a pas fait comme ça à chaque fois. Ça, c'est un début d'explication qui doit aussi avoir du sens. Et pourquoi est-ce que je peux le dire ? Bon, d'abord parce que vous êtes vivant, et moi aussi, mais d'après ce que je viens d'expliquer, mais aussi parce qu'encore une fois, nous sommes dans une phase de transition. Et je vais vous expliquer d'autant plus pourquoi est-ce qu'il y a une phase de transition. Enfin, pourquoi est-ce que la phase de transition. Quelle est la transition ici ? Alors d'abord, il y a des choses qui sont très intéressantes par rapport à l'histoire de la communauté qu'on a vue fin de chapitre 4. Je lis la suite du texte, parce que pour moi, le texte, il est très simple. « Point que tu mentes et que tu aies retenu une partie du prix du champ. » Voilà ce que dit Paul, Pierre. « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc, le reproche exclusif de Pierre, c'est quoi ? C'est de dire, tu as dit, j'ai vendu ce champ tant, je vous donne l'intégralité du prix du champ, et je vous donne ça. Et la réalité, c'est que ce n'était pas ça. C'est ça, c'est en ça qu'il ment au Saint-Esprit. Ce n'est pas dans le fait que tu vends le champ, tu ne le vends pas, tu ne veux pas donner le prix, puisqu'en fait, Pierre lui explique, d'abord, tu n'étais pas obligé de le vendre, contrairement à ce qu'on lit en fin de chapitre 4, où ils disent qu'ils vendaient tout et tout était mis en commun. Donc, il dit d'abord, tu n'étais pas obligé. Donc, même là, tu n'étais pas obligé. Donc, nous, par la suite, on est d'autant plus pas obligé. Et même si tu le vends, tu fais ce que tu veux de l'argent. Tu n'es pas obligé de tout donner. Simplement, ce que tu fais, dis ce que tu fais. Et ne dis pas autre chose. C'est simplement ça. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux montrer que tu es aussi spirituel ou que tu te comportes aussi bien que Joseph, surnommé Barnabas ? Mais tu ne fais pas pareil. Mais tu as le droit de ne pas faire pareil. Sauf simplement, dis ce que tu fais. Vous comprenez ? Donc, l'explication. Et ça commence à nous faire comprendre que l'histoire de la communauté, déjà, elle n'est pas autant communauté que comme elle est décrite au verset 32, 33, 34 du chapitre précédent. Puisque là, Pierre accepte complètement l'idée que le champ ne soit pas vendu, et s'il est vendu, que tu en fais ce que tu veux. Alors, autre chose, Ananias et Saphira, je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit hein ? Donc, ensuite, Ananias, entendant ses paroles, tomba et expira, bing, ça s'est réglé. Alors, c'est ça qui est important. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ensuite, les gens s'étant levés, bon, hop, ils enlèvent le corps. 3 heures plus tard, la femme, elle arrive. Elle entre, et Pierre lui dit, au verset 8, « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enlevé ton mari, sont à la porte et t'emporteront. » Boum, deux morts. C'est réglé. Pourquoi ? Parce que les deux étaient au courant. Donc, quand par exemple on va dire, la femme, l'autorité dans la famille, c'est l'homme et la femme... d'une certaine manière, on va dire, elle doit être soumise, elle suit, etc. Qu'est-ce que ça veut dire soumise ? Qu'est-ce que ça veut dire suivre ? Tu es au courant, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec le péché de ton mari. Là, tu meurs, pourquoi ? Parce que tu t'es mis d'accord avec ton mari. Si tu avais manifesté autre chose, ben, peut-être que les choses ne se seraient pas passées pour toi. Lui, peut-être, serait mort. Et toi, ben, peut-être que Dieu t'aurait traité autrement. Vous comprenez ? Ça, après, vous pouvez l'appliquer à toutes les situations de vos vies. Et du coup, donner un, peut-être un autre sens à la femme, soyez soumise à vos maris. Soyez soumise, oui, mais soyez pas bête non plus. Et vous avez un mot à dire, et d'ailleurs, peut-être que si elle lui avait dit, non mais attends quand même, là, si à la limite, vous voyez, je veux dire, à la limite, ce que Pierre lui dit, c'est sa femme qui lui avait dit. Peut-être qu'à la fin, ils auraient fait autrement. Peut-être qu'à la fin, ils auraient gardé le même prix, mais simplement, ils auraient dit, ben voilà, on l'a vendu, on donne une partie du prix que ça nous a donné. Et il n'y avait pas de problème, et tout le monde restait vivant, et ils pêchaient contre personne, et il y aurait eu un fonctionnement également normal dans le couple. D'ailleurs, en l'occurrence, parce que finalement, la soumission, entre guillemets, je dis entre guillemets, de la femme ici, elle n'est pas correcte, et Pierre lui explique. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter le Saint-Esprit ? Il y a plein de doctrines qui vont là au milieu. Hein. Alors ensuite, voilà, quand j'ai dit, c'est important quand il est dit que donc, tous eurent une crainte, c'est qu'en fait, effectivement, Dieu ne l'a pas refait ça en permanence derrière. Et je pense qu'effectivement, des fois, nous mentons au Saint-Esprit et nous ne tombons pas foudroyés. Mais par contre, ce passage-là, en fait, c'est le début de l'Église et ça, c'est un passage qui a un parallèle à l'Ancien Testament. C'est en fait quand Josué, avec le peuple d'Israël, le peuple hébreu, rentre en Canaan. Et à un moment donné, il y a une bataille et il ne faut pas prendre le butin. Et il y a Akan qui prend le butin. Qui le dit à personne, et il est dit que le péché, il est dans le camp, en l'occurrence à camp, et donc voilà, par le sort, ils vont aller de tribu de machin, et à la fin, on va trouver à camp, qui va être lapidé, et toute sa famille exterminée. Et là, c'est pareil, on peut tirer la conclusion, sa famille exterminée, parce qu'elle était au courant de ce qu'il avait fait. Et là, encore une fois, tu persistes dans ton péché, parce que on est là, on tire au sort, c'est quelle tribu, c'est quelle famille de quelle tribu, c'est quelle personne dans la famille. Je veux dire, à aucun moment, quand il est là, il dit, non, mais c'est pas la peine de tirer au sort, ok, c'est moi qui ai péché. Le truc, le butin, il est là. Non. Et ce que je veux dire, c'est que pour marquer les esprits et pour montrer que, voilà, que Dieu est un peu sérieux, au début, on va dire, d'Israël qui rentre en Canaan, il se passe un fait marquant qui ne va pas se reproduire à chaque fois. Et au début de l'Église, il y a quelque chose qui se passe de la même manière. Et pourquoi il se passe quelque chose de la même manière ? Parce que justement, les gens qui sont là, qui sont convertis, sont des Juifs. Donc, eux, ils y pensent de suite à Akan. Ils comprennent ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Vous comprenez ? Et du coup, transition aussi. Vous voyez ? Nouvelle dispensation, transition aussi. Et donc, après, dans cette transition, c'est pour ça que l'histoire que je suis en train de vous raconter de les Juifs qui viennent adorer à la Pentecôte à Jérusalem et qui, du coup, se retrouvent devant l'effusion de l'Esprit et qui deviennent chrétiennes, en fait, ce qu'on peut penser de manière très logique, c'est qu'ils sont restés, ils ne sont pas restés qu'un jour ou deux ou une semaine à Jérusalem, mais comme ils sont restés, effectivement, il y a peut-être des gens qui n'avaient plus rien à un moment donné. Et comme c'était le début de l'Église, enfin, c'est même pas que c'était le début de l'Église, à la limite, c'est juste que, comme quelque chose se passait entre ces milliers de personnes, qui étaient l'effusion de l'Esprit, le Saint-Esprit qui vient sur eux, voilà, la bonne nouvelle qui arrive, effectivement, il y a eu un comportement, on va dire, communautaire, mais pour pouvoir un besoin ponctuel, dans une phase qui est exceptionnelle, qui est le début de l'Église ici, parce que les gens ne sont pas retournés chez eux de suite. Tout comme, je vous dirais, je vous prends un parallèle, quand deux, trois fois, Jésus a multiplié les pains dans le désert. Il l'a fait pourquoi ? Certes, pour montrer peut-être qui il est, etc., mais aussi pourquoi ? Parce que les gens, ils étaient avec lui, ils étaient loin de chez eux, ils n'avaient pas mangé depuis un moment, et comme il le dit lui-même dans les évangiles, s'ils ne mangent pas, ils vont défaillir. Donc je leur donne à manger, mais il n'y a pas Carrefour à côté. Je suis Jésus, je fais un miracle, c'est tout. Et en même temps, j'en profite pour enseigner mes disciples, pour enseigner... Et voilà. Et donc là, et tout ça, c'est cohérent, ça se tient. C'est pas du « oui, Dieu, il est avec une baguette magique, il fait ça, il veut qu'on soit jamais malade. Il... » C'est de l'enfantillage, ça. C'est pas sérieux, ça. Vous comprenez ? Là, tout se tient, tout est cohérent dans la Bible, l'ancien, le nouveau, tout a du sens, le texte, il veut dire quelque chose, tout a du sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout se tient et tout s'explique d'une manière qui est cohérente. pas toujours logique pour nous, mais cohérente. Donc voilà, donc Agnès Azura, donc ce sont des chrétiens, effectivement ils ont été foudroyés pour la cause, il y a un certain nombre de choses que l'on peut apprendre ici qui sont assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes ?
Une danse.
Une danse juive, hein ? C'est pas ce que je vous ferai de mieux. Hein ?
Rabbi Jacob.
Rabbi Jacob, hein. Pif. Donc c'est quand même pas mal. Ben, on va finir par une broutille, mais en 5 minutes, on peut peut-être faire deux bricolettes. En acte 6, c'est l'instauration des diacres. Les diacres, c'est donc ceux qui servent dans l'Église. Dans les lettres de Paul plus tard, on verra que dans les recommandations qui sont données aux diacres, vous regardez des recommandations pour les anciens, qui sont en fait les pasteurs, et celles des diacres. À quelque chose près, le niveau d'exigence, en tout cas, est le même, à peu près. La fonction n'est pas la même, on est bien d'accord. Et une autre chose qu'on va voir ici, alors déjà on va lire tout simplement le début, tout simplement, on va lire, hein, de toute façon il y a quoi ? Il y a six versets à lire, six chapitres, mal barré. Donc en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, donc les juifs d'origine donc grecque qui sont venus à Jérusalem pour adorer et qui se sont convertis, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Je trouve que la communauté où on partage tout, deux chapitres plus loin, ça dérape vite quand même. Hein. Enfin, ça dérape. Ça dérape pas violemment, mais en tout cas, ça commence un petit peu à bousculer dans les coins quand même. Hein. Légèrement, mais quand même un petit peu. Quoi. Comment on partageait avec équité les pauvres et tout ça, là, c'est ce qu'on a eu. Ouais, mais apparemment, ça n'a pas pris longtemps pour que ça soit moins parfait que ça, la communauté. Hein. La société idéale. Hein. Mais ça, ceux qui s'appuient sur le cadre, ils ne lisent pas trop ça. Hein. Enfin, c'est pas grave. On ne leur en veut pas. Donc, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est-à-dire que nous perdions, entre guillemets, du temps dans l'étude et dans le partage de la parole de Dieu. Et là encore, c'est pareil. Est-ce qu'on doit l'appliquer de manière absolue aujourd'hui ? On va dire « Bon, les pasteurs, il ne faut pas qu'ils servent à table parce qu'ils ont autre chose à faire. » Alors, je suis complètement d'accord, ils ont autre chose à faire, il n'y a pas de problème, et qu'ils le fassent. Mais ne le prenons pas de manière absolue, pourquoi ? Parce que là, c'est le début de l'Église. Donc, début de l'Église, c'est quoi ? C'est nouveau. Ben, il faut qu'on évangélise au maximum, il faut qu'on enseigne au maximum. Enfin, je veux dire, le monde, il est vide devant toi. Aujourd'hui, on n'est pas exactement dans la même situation. Que l'Église, elle évangélise de plus en plus, il le faut autant mieux, et ça concerne tout le monde. Que le pasteur doit évangéliser, c'est sûr, c'est même dit à Timothée, s'il doit faire l'œuvre d'un évangéliste, d'un évangéliste, mais il ne l'est pas forcément. Enfin, il n'a pas forcément à l'être, oui. Mais voilà, après, je veux dire, c'est pareil. Les pasteurs qui vont prendre ça, qui vont dire « Attends, je t'explique, j'ai besoin d'avoir trois sbires et je ne vais même pas faire la vaisselle. » Je suis d'accord, ce n'est pas ta fonction principale, je ne vais pas te demander de le faire, mais disons que le côté montrer que je suis un être tellement à part ne me paraît pas tout à fait justifié dans la doctrine du Nouveau Testament, et ce passage-là me paraît un peu léger. Un peu léger. Un peu léger dans le contexte. Voilà. Donc, ok. Donc, effectivement, il devait enseigner, et donc, etc. Donc, du coup, il faut nommer des gens. Donc, et nous, alors, où est-ce qu'il est passé celui-là ? Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi de distribuer aux tables. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, mais c'est bien super, il y a unanimité. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, enfin voilà, Parménas, Nicolas, Prosélyte. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Bon, et ensuite, apparemment, on ne reparle plus de problèmes. Ce qui m'intéresse ici, c'est que dans les gens qui sont cités, vous avez par exemple Philippe et Étienne. et notamment Étienne, dont on parle dans la suite du chapitre, et qui va finir lapidé. Et là, on ne va pas le lire, mais juste vous lisez. Donc, il évangélise et il fait un discours, etc. Je pense que ces gens-là, d'abord ici, il est demandé qu'ils soient remplis de Saint-Esprit. Donc, alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est, par contre, c'est intéressant de manière plus pratique pour nous, pour dans l'Église aujourd'hui. C'est que d'un côté, on n'a pas à être hyper exigeant avec les gens pour leur proposer des choses à faire dans l'Église. Et d'un autre côté, on ne doit pas être juste à remplir des trous. Parce que, excusez-moi, servir à table, ça va, hein, je veux dire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 heures de prière et 6 heures d'études de la Bible dans la journée avant d'aller servir à table. Hein. OK. Sauf qu'ici, vous voulez quand même des gens remplis de l'Esprit Saint qui avaient un bon témoignage. Et voilà. Et on le savait sur la durée. Et ils faisaient l'unanimité. Donc, ce n'était pas le dernier venu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a, là, pareil, il y a peut-être un petit peu un équilibre entre juste je remplis des trous parce qu'il y a des besoins. Et l'autre, il faut qu'il ait fait 10 ans d'institut public avant de, j'en sais rien, d'appuyer sur un bouton à la sono. Vous voyez, là, il faut trouver l'équilibre. Mais ça, voilà, chacun a le trouvé. Enfin, chacun, les personnes qui sont concernées doivent le trouver. Et donc, oui, ce que je veux dire, c'est qu'après, quand vous lisez le discours d'Étienne, manifestement, il devait faire pas que distribuer à table, parce qu'apparemment, il y avait une capacité d'enseigner quand même les choses de la Bible qui était quand même un peu plus que correcte. Donc, voilà. Et normalement, on a fini notre temps. Et comme on a fini notre temps, je vais juste dire une phrase pour être annoncé pour la suite. Non, je vais juste le dire comme ça. Voilà, acte 15, c'est ce qu'on appelle le... rien à voir avec ce que je viens de dire là. Hein, mais acte 15, c'est ce qu'on appelle le proto-concile. C'est quoi le proto-concile ? En fait, vous savez que dans l'histoire de l'Église, donc du coup, qui s'est appelée catholique au bout du IIIe siècle, catholique, parce que catholique, ça, en latin, ça veut juste dire universel, en fait. Hein, c'est pas chercher plus loin. Mais du coup, c'est tellement universel qu'ils pensent qu'il n'y a qu'eux, parce qu'ils sont qu'eux qui sont universels. Et après, tu deviens universel quand tu viens chez eux. Mais si tu ne l'es pas, tu n'es pas universel. Bon, enfin, peu importe. Mais en tout cas, donc, vous savez qu'il y a... Je pense que vous savez, il y a eu différents conciles dans l'Église catholique avec les papes, etc. Il n'y a aucun problème à ça. Et du coup, même des fois, même pas des problèmes, mais des choses très bien. Et notamment dans les premiers siècles, dans les 3, 4, 5 premiers siècles, il y a des choses, du coup, en termes justement de théologie, de doctrine, qui ont été assises, mais pour l'histoire de l'Église, mais pour nous aussi qui sommes protestants, enfin, je veux dire, la doctrine de la Trinité ou des choses comme ça, ou de l'enfer, ou de machin, qui ont été assis dans des conciles comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des divergences, parce qu'il y avait des hérésies, il y avait des choses qui étaient... Voilà. Et donc, ils ont fait des conciles. Mais le premier concile qui s'est fait dans, on va dire, on peut appeler ça dans l'Église chrétienne, c'est dans Acte 15. Et dans Acte 15, ben on le verra la prochaine fois, j'espère. On verra. C'est Paul qui, donc, prêche aux païens et qui, du coup, présente le fait que... Ben, la parole de Dieu, elle est aussi pour les païens qui peuvent recevoir le Saint-Esprit et être convertis comme nous, en fait. Ça, c'est le sujet. Mais le truc qui est intéressant, et ce qu'on verra, c'est que au début, je vous avais dit, voilà, vous avez les deux super-héros de Actes, c'est Pierre et Paul. L'église principale chrétienne, au début, elle est à Jérusalem. Pour trancher le premier dilemme dans l'histoire de l'Église avec ce proto-concile, donc le premier concile, Acte 15, la personne qui va trancher, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est un autre, c'est Jacques. Et Jacques, en plus, est un des frères, un des demi-frères de Jésus, qui n'a pas cru en Jésus pendant sa vie, donc qui ne l'a pas suivi comme disciple, et qui était l'évêque de Jérusalem, et qui, du coup, avait, d'une certaine manière, plus d'autorité que Pierre et Paul réunis à ce moment-là, en un lieu donné. C'est quand même intéressant à noter. Donc on s'arrête et puis on verra la semaine prochaine Acte 2 et compagnie. Hein ?